Bienvenue au podcast de l'EOE de l'Association suisse des patients atteints d'éosophagite et éosinophile. Je m'appelle Flore Keller. Notre podcast vous offre un aperçu des questions quotidiennes que se posent des personnes concernées par l'EOE. Nous sommes aussi présents avec des podcasts en allemand que vous pouvez retrouver sur les canaux tels que Spotify, Apple et les autres. Pour notre épisode de ce jour, nous avons le plaisir d'interviewer Lisa Perrot, diététicienne au service d'endocrinologie, diabétologie, métabolisme et nutrition clinique au CHUV à Lausanne. Elle est aussi active avec 8 autres thérapeutes indépendants chez Motive. Leur mission, réunir des experts, expertes passionnés pour accompagner durablement chaque personne vers plus de santé, de performance et de bien-être. Je souhaite la bienvenue à Lisa pour le podcast d'aujourd'hui. Bonjour Lisa.
Bonjour Flore.
Lisa, tu es diététicienne où tu as exercé en hospitalier et ambulatoire depuis l'obtention de ton diplôme, essentiellement dans la nutrition clinique, d'abord pour le réseau hospitalier Neuchâtelois et depuis 2023 pour le CHUV à Lausanne. Et depuis peu au sein de Motive avec 8 autres thérapeutes. Tu accompagnes des patients dans le cadre de pathologies chroniques et aiguës et possèdes une précieuse expérience dans l'expertise de l'EOE. Quel type de patients viennent te consulter, hein? Lors de notre préparation, tu m'as mentionné que tu as plus de patientes féminines et moi, de mon côté suisse-alémanique, on m'a rapporté que beaucoup plus d'hommes d'âge moyen exerçant une activité professionnelle étaient patients, hein? As-tu une explication pourquoi plus de femmes à ton cabinet et plus d'hommes de l'autre côté de la Sarine?
Alors, il est vrai qu'en général, en fait, les hommes ils vont plus être touchés par l'EOE, justement. Mais je pense qu'il y a potentiellement un biais ici au CHUV, parce que je vois des personnes qui ont, en général, qui ont une maladie assez avancée, qui ont vraiment des grosses problématiques. Et je pense que c'est tout là... Peut-être justement cette différence qui s'explique, liée vraiment à peut-être cette population qui est un peu plus complexe et qui est aussi des fois plus demandeuse. Donc voilà, ce serait mon explication justement.
Quelle est ton approche avec une nouvelle ou un nouveau patient?
Alors, pour moi, je dirais que la priorité déjà dans ma prise en charge, ça va vraiment être de pouvoir accompagner la personne selon ses besoins et ses objectifs. Donc, il y a toujours ma lecture à moi de professionnel, mais aussi sa place de patient, de son vécu. Très souvent, justement, la première consultation, ça va être d'essayer déjà de refaire l'historique, qui très souvent est très, très long. C'est souvent des longs parcours. Et puis, de définir qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles sont les problématiques qui étaient peut-être au début et qui ont évolué. Où est-ce qu'on en est? Et puis, finalement aussi, quels sont justement dans ce contexte-là les besoins du patient, ses attentes? Et puis, qu'est-ce qui a été défini surtout aussi avec le gastro-entérologue au niveau du suivi, au niveau des propositions thérapeutiques? Donc, voilà, la première fois quand je rencontre un patient, c'est vraiment une grande discussion là
voilà.
Autour.
Ouais. Peux-tu nous raconter un cas particulier particulièrement tragique?
Alors, c'était justement une patiente qui est venue me voir, qui avait eu, qui est autour de la trentaine par là autour. Et puis, en fait, depuis toute jeune, elle avait des symptômes qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Et puis, ben, quand on est face à soi, des fois, on ne se rend pas compte aussi que certaines choses qu'on vit, ce n'est pas la norme. Du coup, ça faisait longtemps qu'elle vivait avec ces problématiques associées à... aux problématiques liées juste à l'œsophagite, il y avait aussi des problématiques d'allergie, d'autres problématiques aussi digestives, de tolérance des aliments. Et puis, c'est vrai que quand elle est venue, en fait, il y avait tellement de choses qu'elle ne tolérait plus, qu'elle mangeait très, très peu. Elle était dans un état nutritionnel qui était vraiment déjà dégradé. Et puis, c'était très compliqué. Donc, ça nous a pris un grand, grand suivi parce que, lié à tout ça, il y avait aussi tout l'impact psychologique, finalement aussi du stress lié à la prise alimentaire, de se dire ah ben, si je mange telle chose, je vais avoir des douleurs, ça va pas aller, qui amplifiait encore plus aussi les symptômes de base. Donc c'était une prise en charge assez complexe. On a dû aussi se coordonner, que ce soit avec les gastro-entérologues, mais aussi mettre en, dans la course des psychologues pour pouvoir avoir aussi un suivi. Et ça, c'est, enfin, je dirais que c'est un des cas les plus tragiques selon moi parce que ça impacte vraiment la personne dans tout son quotidien, dans son état de santé. Voilà. Donc ça, c'était
un grand challenge.
Un grand, grand challenge. Ouais.
Et t'as pu l'aider, je suis convaincue.
Oui, alors on n'a pas pu régler toutes les problématiques, mm-hmm. mais en tout cas, on a pu améliorer déjà au moins sa qualité de vie au mm-hmm. quotidien, son état nutritionnel qui a fait aussi que... Ben,
elle a repris du poids probablement.
Exactement, et puis elle a pu retrouver aussi un peu plus d'autonomie dans son quotidien, de gestion aussi et de flexibilité.
Et qualité de vie.
Exactement.
Peux-tu nous raconter ta plus grande réussite?
Oui, alors... C'était une personne aussi, cette fois c'était un homme,
ah voilà.
qui est venu me voir avec, pareil, une EOE et des allergies associées, et puis qui était totalement perdu, qui me disait qu'il savait plus quoi manger. Heureusement, il n'y avait pas trop, je dirais justement, d'impact déjà au niveau psychologique ou pas trop d'impact au niveau de son état nutritionnel, ce qui nous permettait d'avoir aussi plus de temps pour pouvoir mettre en place les choses. Et puis, ce qui était chouette avec lui, c'est qu'au début, il était à, pas que je dise de bêtises, à 4 groupes d'aliments qu'il avait enlevés de son alimentation. Et puis, on a pu justement, en discussion aussi avec les gastro-entérologues, faire le tri là au milieu et puis réintroduire certains aliments. Et puis, à la fin du suivi, il avait plus qu'une catégorie, enfin, que les produits laitiers finalement qu'il devait retirer de son alimentation, hormis les allergies. Mais ça lui a vraiment permis... Ben, du coup, de réintroduire, d'avoir plus de variété, et puis que ce soit aussi beaucoup plus facile dans son quotidien à gérer. Donc, pour moi, ça, c'était une réussite de le voir aussi, ouais. Finalement, content de retrouver ben, voilà, une meilleure qualité de vie au quotidien.
Si une personne vient d'être diagnostiquée avec une EOE, quel serait le premier conseil alimentaire que tu lui donnerais?
Alors, mon tout premier conseil, c'est déjà d'essayer au maximum de pas éviter des aliments. C'est-à-dire de pas y aller, comment dire, sans accompagnement. Ça, c'est mon premier conseil, c'est de discuter, de refaire le point justement avec les gastro-entérologues, où est-ce qu'ils en sont, et puis aussi en fonction des patients, ce dont ils sont prêts à mettre en place, etc. C'est vraiment ça parce que, souvent, si on met en place une éviction des aliments sans contrôle, sans bonne gestion, ben, des fois, on se retrouve à enlever beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, c'est difficile de faire le tri au final. Qu'est-ce qui cause des problèmes? Qu'est-ce qui ne les cause pas? Donc, souvent, c'est vraiment ça, mon premier conseil. C'est on ne se lance pas dans une éviction sans en avoir discuté avec le gastro-entérologue et puis le ou la diététicienne qui nous suit pour pouvoir vraiment essayer de faire de manière vraiment monitorée. Mmh. Et puis, ben, limiter aussi tous les risques nutritionnels que ça peut... engendrer.
Ouais. Et les frustrations aussi alimentaires, finalement.
Complètement. Ouais, ouais. Complètement.
J'avais personnellement essayé de jouer un peu au docteur et d'enlever le gluten, mais sans orientation, finalement. C'était pas une très bonne idée. Voilà. Mmh. En attendant, un grand merci à toi, Lisa, pour cette passionnante interview qui a porté sur les différentes approches auprès de nouveaux patients et patientes. Et que tout reste possible malgré une EOE. Est-ce que tu souhaites dire autre chose, donner des conseils aux personnes concernées, médecins et auditeurs intéressés?
Alors peut-être mon conseil le plus important, c'est de vous entourer. C'est-à-dire de s'entourer que ce soit des médecins, des thérapeutes possibles, mais aussi d'autres personnes qui vivent la maladie, parce qu'on n'a pas tous la même situation. Mais des fois, c'est vraiment important et ça peut être une grande source de soutien que d'avoir des gens qui sont tant spécialisés dans la pathologie, mais aussi qui vivent aussi ces difficultés au quotidien. Et ça, je pense que c'est le plus important.
La recherche continue et nous vous invitons à notre prochain podcast pour en savoir plus à ce sujet et à découvrir d'autres thèmes passionnants. Si ce podcast vous a plu, prenez un instant pour nous laisser un avis. Je tiens à souligner ici la possibilité de soutenir l'association suisse de l'éosophagite éosinophile en tant que membre, parraineur ou sponsor. En tant que membre, vous recevrez notre newsletter plusieurs fois par an et aurez la possibilité de poser des questions et de faire part de vos préoccupations au sein de notre réseau. De plus, votre soutien nous permet de continuer à exploiter nos canaux d'information sur lesquels vous trouverez de plus amples informations sur l'EOE. Visitez notre site web à l'adresse www.e-centrale-oe.ch, sur Facebook et Instagram.